France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, pourquoi manger ensemble nous rend heureux, même si certains repas de famille, entre amis ou collègues peuvent être source de tension, de malaise, s'attabler ensemble génère du plaisir, de la joie, de la légèreté. Nous verrons quelles sont les règles d'une tablée joyeuse, et si d'ailleurs de telles règles existent, et nous partagerons bien sûr quelques menus qui vous régaleront corps et âme pendant les fêtes. Avec nous ce matin, l'universitaire Pascal Lardelier, la créatrice de contenu culinaire Camille Chamignon, et le chef Grégory Cohen. Si vous voulez un joyeux drille à votre table, invitez Thibaut de Saint-Maurice. Il pourra vous parler des mérites respectifs de l'enterrement ou de la crémation. J'ai vécu ça cette semaine au moment du dessert. Bonjour Thibaut, chercheur en philosophie. Quel est le menu de votre chronique Les Punchlines de la philo?
Mais ce que vous ne dites pas, Alice, c'est que vous avez trouvé cette conversation très intéressante, oui, et que vous avez quitté la table en vous disant, tiens, il faut que je m'en préoccupe.
Mais au départ, c'était un peu... Bon bref, Les Punchlines de la philo, donc...
Eh bien, Pierre-Joseph Proudhon, 1840, la propriété, c'est le vol.
Bonjour Guillemette Audicino.
Bonjour Ali.
Chef de rubrique cinéma Télérama, réputé pour oublier ses déjeuners avec votre serviteur.
Oh, c'est pas vrai, ça va durer un an.
Ressemblera votre ordonnance de cinéthérapie?
Écoutez, je suis absolument confuse puisque nous allons parler de tablée, de bien manger, etc. Moi, je vais vous parler d'un truc qui me donne vraiment envie de dégueuler.
Bon, à tout à l'heure. Bienvenue, c'est sympa, ça commence bien cette émission. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, l'émission qui donne du sens à votre vie quotidienne.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rébéi.
Est-ce que tout le monde a eu de la sauce?
Oui.
Les légumes aussi?
Oui.
Bon appétit.
Ouais, bon appétit la famille. Ouais,
merci, bon appétit.
On sent que c'est fait avec amour. Hein.
Vous
avez tourné par terre.
Vous allez vous régaler. Hein. Alors, les légumes, à point.
Soit, vous avez des talents pour le couscous.
Ah ouais.
Abdullah, Abdullah. Mais bon, je vais prendre du poids, mais on s'en gagne.
Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Quand on commence à manger, on dit bismillah.
Bismillah. Bismillah, bismillah.
Non, pas avec un G, avec un B.
Besmela.
Extrait de La Graine et le Mulet de Kechiche en 2007. Bonjour Pascal Lardelier, bienvenue.
Bonjour Ali Rébéi.
Vous êtes professeur en information et communication à l'Université de Bourgogne-Europe et vous aviez publié il y a une quinzaine d'années Opéra Bouffe, une anthropologie gourmande de nos modes alimentaires et plus récemment aux éditions de l'Aube, éloge de ceux qui nous lient. Bonjour Camille Chamignon.
Bonjour Ali.
Vous êtes créatrice de contenu culinaire sur Instagram et vous publiez chez Hachette Cuisine un très beau livre, Petite, Moyenne et Grande Tablée, avec en couverture une très belle illustration de votre sœur Agathe Chamignon qui invite vraiment à... On a envie de se mettre autour de cette table avec toutes ces gourmandises au cœur de la couverture. Et d'ailleurs, Guillemette a envie de me piquer le livre.
Oui, et j'ai envie à la fois de manger et de me remettre à dessiner, voyez, avec ça.
Bonjour Grégory Cohen.
Bonjour Ali Rébéi.
Vous êtes chef du One Place à Rungis en région parisienne et vous publiez chez Le Duc Ma cuisine italienne, Bella Gigi. Alors Pascal Lardelier, on va parler de rite, de table ce matin. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est un rite? Rite, ça vient du latin ritus qui signifie ordre prescrit. Un rite, c'est un moment hors du temps, c'est un temps qui sacralise ce moment particulier qu'on est en train de vivre. Et vous l'écrivez dans votre livre précédent, c'est une sorte de parenthèse spatio-temporelle pour ceux qui la vivent.
Eh bien écoutez, vous l'avez fort bien défini, puisque c'est tout ça à la fois. Oui, donc un rite, c'est une parenthèse sociale, on va entrer dans un moment institué avec ses règles propres. Vous avez rappelé que ritus, ça signifie ordre prescrit. Et puis oui, il y a, de manière consciente ou non consciente, une dimension sacrée, idéalement, dans le rite. Alors, c'est un moment de même qui va esthétiser ce que l'on va vivre. Et nous savons combien nos tables de fête, eh bien, elles vont être couvertes de nappes blanches, de bouquets, de couverts d'apparat que l'on ressort pour l'occasion. Il y a un côté solennel, bien sûr aussi. Il y a une temporalité instituée, un repas de fête, eh bien ça dure pas 20 minutes chrono. On prend le temps de prendre le temps.
Si ça dure 20 minutes chrono, c'est mauvais signe.
Ouais, en principe, ça dure beaucoup plus que ça, on le sait, ça peut durer des journées entières, mais bon, c'est le jeu, c'est la règle. Et puis, il y a une célébration, bien évidemment, de valeurs, de la famille, de l'esprit de la famille, d'un dieu, bien sûr, parfois aussi. Et puis, enfin, il y a un partage. J'ai coutume de dire que le rite, c'est le lieu des liens. C'est ce moment particulier durant lequel une communauté, et la famille est un collectif intime, une communauté va se retrouver pour célébrer quelque chose, et puis finalement, eh bien pour se célébrer elle-même. Et c'est Durkheim qui nous rappelait eh bien que les communautés se célèbrent elles-mêmes en célébrant leur dieu.
Le sociologue Émile Durkheim, Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, on comprend immédiatement que dans la convivialité, il est affaire de plat, il est affaire de se nourrir, il est affaire de satisfaire donc un besoin, mais il est aussi affaire de vie, tout simplement, de vie ordinaire, et donc de partager bien plus que la satisfaction d'un besoin. C'est toutes les discussions, tout le plaisir de se voir, de prendre des nouvelles, de comparer parfois aussi les micro-différences dans la manière de mettre la table, ou de faire tourner les plats, ou de se servir, etc. En fait, c'est d'une richesse, alors on peut dire le grand mot anthropologique, mais on peut dire tout simplement d'une richesse et d'une densité humaine à chaque fois que, bon, oui, effectivement, on se met pas dessus, hein, que l'ambiance est bonne. Et c'est, pour moi, c'est toujours passionnant parce que ça montre comme la vie ordinaire peut être d'une densité et d'une intensité hyper forte. À table, c'est vraiment un moment particulier pour ça.
Et d'ailleurs, Pascal Lardelier, l'ordonnancement de nos repas est un fait social total, hein, pour reprendre l'expression du sociologue Marcel Mauss.
Oui, c'est vrai que la table est éminemment politique, en fait, hein, parce que d'abord on produit du lien, on célèbre des valeurs que l'on a en commun, justement, et je pense même que l'aliment, quelle qu'en soit la sacralité, puisqu'il s'inscrit souvent lorsqu'on est sur les tables de fête de fin d'année, dans une histoire, dans une tradition, l'aliment est un prétexte, et le texte, il est ailleurs. Il est dans ce qui vient d'être appelé, c'est-à-dire dans la célébration d'un collectif, dans tout un ensemble de valeurs et de manières de faire, d'éthos, pourrait-on dire, que l'on se donne en partage. Et je pourrais même, d'abord la table est un creuset, la table de fête est un creuset, vraiment. On vient véritablement y communier. Et puis surtout, à table, et c'est vraiment valable, je me répète, pour les fêtes, eh bien, on ingurgite de la mémoire et de l'histoire, de l'identité, de l'appartenance et des souvenirs. C'est vrai que le repas, il est préparé à l'avance, et selon sa région, selon sa religion, selon son histoire familiale, selon le pays dans lequel on se trouve, eh bien, on va partager certains aliments qui sont, je le répète, un prétexte. Le texte, il est ailleurs. Le texte, c'est se rassembler ensemble, communiquer. Oui, oui, on échange, on discute et tout, mais communier autour de valeurs, véritablement. Et il y a une dimension sacrée, qu'on l'assume ou qu'on ne l'assume pas.
Camille Chamignon.
Alors oui, pour rejoindre complètement ce que Pascal dit, nous, chez nous, cette année à Noël, on va être 30. Donc,
c'est beaucoup.
C'est vraiment le lien famille par excellence. Et aussi, moi, ce que j'aime, c'est aussi parce que on dit que c'est une histoire aussi, une histoire de famille, et aussi que ce soit aussi intergénérationnel, qu'on soit tous à table, il y a des petits, des grands, les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins germains.
Et vous parvenez à tous vous réunir le 25 décembre, parce que c'est le déjeuner du 25 décembre.
Oui, midi.
On le sait, avec les familles recomposées, c'est toujours un peu compliqué d'organiser un Noël tous ensemble. Et pour vous, c'est un rite tellement important, tellement fondamental, que vous parvenez à vous réunir à une trentaine.
Oui, voilà, c'est ça. Alors, on s'organise un peu parce que il y a de plus en plus de pièces rapportées, entre guillemets. Et du coup, on essaye de faire un Noël sur deux où toutes les pièces rapportées viennent. Et là, cette année, c'est le grand Noël où on est 30, sinon on est environ 25.
Où ? Dans quel lieu ?
Alors, c'est toujours chez mes grands-parents. Ils ont une salle à manger qui s'y prête parfaitement, mais une petite table en L. Et voilà, on tient à 30.
Grégory Cohen.
Ouais, c'est quand on voit en fait toutes ces familles qui sont soit issues de la ruralité, soit issues de certaines grandes villes, et où les enfants vont partir, et où on va se retrouver avec une table qui le plus souvent de l'année va être vide. Ce moment-là, ce moment où on ramène tout le monde, où les racines reprennent vie, et généralement c'est chez les aînés, parce que c'est chez les aînés qu'on a l'habitude de rassembler. Généralement ça saute après des générations, quand les grands-parents partent, on perd un peu ça. Mais c'est ce moment-là qui est complètement dingue et qui nous permet vraiment de faire famille, de faire sens, de retrouver même tous ces souvenirs qu'on cultive et qu'on cultivait. Donc on va retrouver le plat que la grand-mère faisait, mais quand on avait 8 ans, 10 ans.
Et d'ailleurs, justement, ça me fait une belle transition avec vous, Camille Chamignon. Oui. Les grandes tablées dominicales, c'était chez votre mamie Annie ou votre mamie Monette. Alors, chez mamie Annie, c'était le pâté de pommes de terre, admirablement bien mis en scène dans votre livre de cuisine. Et chez mamie Monette, c'était la charlotte aux amandes. Hein.
Oui, voilà, c'est ça. Bon, après, les deux faisaient un très bon pâté aux pommes de terre. Mais oui, le pâté aux pommes de terre, c'est un peu mon mantra. Il y a que des bons ingrédients, on peut que aimer. C'est de la crème, des pommes de terre, de la pâte feuilletée. Du coup, c'est un peu aussi les ingrédients de base de ma cuisine et du livre, voilà. Et non, ça, c'est les vraies petites madeleines de Proust qu'on arrive à retrouver quand on a 30 ans ou 40, 60 ans, et c'est génial.
En tout cas, m'avait donné envie d'en réaliser un pendant les fêtes. Guillemette Odissino.
Ben, moi, il y a un truc aussi que je trouve intéressant dans cette notion de rituel. Quand on va, par exemple, à la messe, c'est un rituel, mais pendant la messe, on ne fait pas de commentaires sur la messe.
Hein. C'est vrai.
Donc, la plupart des rituels, disons, sacralisés, on se tait pendant qu'on les vit. Le repas de famille, et surtout les repas de fête, il y a une mise en abîme, c'est-à-dire on vit le rituel et on parle du rituel en même temps. C'est-à-dire, évidemment, quand on dit que à table les Français parlent de bouffe, mais à Noël, on parle de ce qu'on est particulièrement en train de manger, ce que ça représente, quels sont, pourquoi on a mis telle couleur de bougie, etc. Enfin, donc en fait, cette espèce, je trouve ça magnifique parce que c'est un rituel qui en fait se commente en direct pendant qu'on est en train de le vivre.
J'imagine à 30 chez vous, Camille Chamignon, ces commentaires sur ce qu'on est en train de manger.
Ah oui, bah nous on vit pour ça, on vit pour la nourriture aussi, c'est très important, même s'il y a le lien du repas. Nous on met le paquet sur ce dîner de fin d'année, c'est l'opulence, c'est un menu en 6 temps et ça dure toute la journée jusqu'au lendemain parce qu'on a aussi le lendemain, on mange les restes parce qu'on fait exprès de produire plus pour avoir des restes le 26 et le soir on continue, on a 2 heures de pause.
Et ça continue jusqu'au mois de mars. En fait.
Oui voilà, c'est ça, ça ne finit
Pascal Lardelier, sur ce que vient de nous dire Guillemette, sur cette mise en abîme du rite, du repas et en particulier du repas de fête.
Oui, alors c'est vrai qu'on adore manger, puis on adore parler de ce qu'on mange, c'est clair. Alors après, je pense que lors des repas de fête, on a quand même intérêt à avoir des commentaires plutôt œcuméniques et consensuels, oui. Et pas trop critiques quand même, parce qu'il serait malvenu que la pièce rapportée ou que la petite nièce dise qu'elle ne trouve pas du tout le repas à son goût. Alors on sait que depuis
quelques années,
il y a tout un ensemble d'allants de soi qui ont été remis en question de manière radicale sur ce qu'on peut manger, ce qu'on doit manger pour la santé, pour la planète, etc. Et je le dis sans aucune ironie, mais c'est vrai que je pense que les commentaires doivent quand même plutôt aller dans le sens de la célébration de ceux qui ont cuisiné, de celles et ceux qui ont cuisiné, plutôt que de dire que c'était pas assez cuit ou que c'est pas à son goût. Voilà.
Thibaut de Savory.
Oui, mais de ce point de vue-là, je trouve que c'est aussi, vous disiez tout à l'heure que c'était politique aussi, la table, justement sur ces histoires de préférences alimentaires ou de contraintes alimentaires ou de choix alimentaires, quelle que soit la manière dont on les appelle. Oui, ça devient compliqué parfois de faire un grand repas avec ceux qui ne veulent pas manger ceci ou qui ne peuvent
pas
manger cela.
De gluten, de viande, de sucre, de gluten, sel, etc. De gras.
Voilà. Et en même temps, il se trouve que c'est, pardon, le défi même de la démocratie que de faire vivre ensemble des gens qui n'ont pas la même conception du bien et de les articuler ensemble. Et donc, je trouve que moi, c'est aussi des occasions de ces repas, de grands repas familiales, et en un sens, plus c'est étendu, plus c'est difficile. Mais c'est des petits exercices de démocratie pratique, en fait. Et donc, c'est l'occasion aussi de tester, on pourrait dire, la puissance démocratique d'une famille, de voir si elle est capable de transformer, de s'adapter, de s'ajuster, d'accueillir des choses qui sont différentes. Et ça peut donner, en fait, une forme de surplus de convivialité.
Camille Chamignon, comment vous y prenez à 30 pour que tous les goûts alimentaires entre ceux, je ne sais pas si c'est le cas dans votre famille, ne mangent pas de viande, ne mangent pas de gluten, de sucre, de gras?
Nous, on est un peu chanceux parce qu'on est une famille d'agriculteurs, de paysans, donc... Il y a quand même, on a quelques végétariens, mais on s'adapte très facilement.
Il n'y a pas de problème.
Il y a assez pour tout le monde.
Grégory,
ouais. Et puis encore une fois, généralement, il y a l'instinct nourricier qui est basique, c'est-à-dire que quand on reçoit, on fait une espèce de topographie de qui on va recevoir, comment est-ce qu'on va les recevoir, et généralement dans ces moments de fête, puisque là on parle de la fête, comme c'est très opulent. T'as plutôt le choix en réalité,
voilà,
en vrai. C'est-à-dire qu'il y a tellement sur la table que c'est là où on fait et on travaille sur le vivre ensemble, vraiment. Parce que c'est pas que en fait la bouffe qui devient un problème dès qu'on est 30.
Oui.
C'est que la mémoire qu'on a du dernier dîner revient. Alors on se rappelle évidemment ce qu'on a mangé et on voit si elle a toujours la main, si c'est toujours la même chose, etc. Même si nos goûts ils ont changé, mais on se rappelle aussi des dernières discussions avec l'oncle un peu dérangeant à la Thibault.
Pourquoi ça tombe toujours sur
c'était
l'oncle
Thibault, c'était
parce
Thibault
qu'on
parce que
c'est notre père,
parce que
voilà. Par exemple.
Le grand oncle, la pièce rapportée, bref, celui qui va être un petit peu le grain de sable dans la machine. Et comment est-ce qu'on va l'assimiler? Comment est-ce qu'on va travailler ensemble? Comment est-ce qu'on va réussir à faire que ce vivre ensemble, il va fonctionner au moins le temps d'un repas qui dure deux jours.
Hein. Camille Chamignon, rassurez-vous, il n'y a pas d'oncle lourdeau dans votre tablé du 25 décembre.
Voilà, bon, très aucun. Bien.
Allez, il est déjà l'heure.
Il y a l'oncle sous l'eau.
Il est déjà l'heure de retrouver la cinéthérapie de Guillemette Audicino.
France Inter.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Grand bien vous fasse.
Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement.
Ha ha. Alors, cher Ali, en 1986, je découvrais en salle Stand By Me de Rob Reiner, adapté de Stephen King. Et j'aimais l'Amérique. Ses bleds paumés aux couleurs automnales, sa jeunesse blessée mais pleine d'illusions et de désirs d'aventure. 3 ans plus tard, c'était « Quand Harry rencontre Sally » de Rob Reiner. J'étais scotchée par la séquence hilarante où Meg Ryan mime un orgasme au restaurant. Je repensais aux comédies de l'âge d'or hollywoodien et bon sang, que j'aimais les States. Oui, je disais comme ça à l'époque, hein, j'avais 20 ans. Hein, bon. Bien des années plus tard, je kiffais en découvrant que c'était sa propre mère, à Rob Reiner, qui dans le film jouait la vieille dame dans le restaurant, qui en assistant à cet orgasme commande la même chose que Sally. Et puis dimanche dernier, Rob Reiner a été assassiné. Et alors que j'avais du chagrin de perdre un des réalisateurs de mon adolescence, j'ai eu envie de vomir, mais vraiment, en apprenant que Donald Trump avait tweeté que son décès était le résultat de, je cite, « sa névrose anti-Trump ». Et le président continuait, à la troisième personne, évidemment, « il était connu pour rendre les gens fous par son obsession enragée contre le président Donald J. Trump ». Alors même son propre camp a été horrifié. Mais Trump a ajouté devant les caméras de la Maison Blanche, et toujours à la troisième personne, « c'était une personne dérangée de la vie de Trump. Je n'étais pas fan de Rob Reiner du tout, en aucune manière ». Bon, ça on avait bien compris, hein. Alors moi, Donald, c'est de toi dont je suis vraiment pas fan, et je suis donc moi aussi sacrément dérangée, j'imagine. Et si vous êtes comme moi, et que vous avez envie de vous guérir de tant d'immondices, que vous avez envie de rêver d'un autre président, vous pouvez justement regarder un film de Rob Reiner. Dans la délicieuse comédie politico-sentimentale Le Président et Miss Wade, Michael Douglas incarne un gouvernant beau, équilibré, plein d'humour et fâché avec le populisme.
La Maison-Blanche enverra un projet de loi au Congrès pour qu'il l'étudie. Il s'agit de la résolution 45-5 sur les économies d'énergie qui réclame une diminution de 20% des émissions d'hydrocarbures sur les 10 ans à venir. Il s'agit, et de loin, de la décision politique la plus déterminée que l'on ait jamais prise dans la lutte pour inverser les effets du réchauffement de la planète. Un autre projet législatif est le projet de loi sur la criminalité. À partir d'aujourd'hui, le projet n'existe plus. Je le jette aux orties. J'abandonne le projet actuel afin de rédiger un texte de loi qui soit plus réaliste. Il est impossible de s'attaquer à la prévention de la criminalité si on ne se débarrasse pas des armes de poing et des armes d'assaut. Ces armes sont une menace pour la sécurité du pays et je suis prêt à faire du porte-à-porte si jamais il le faut. Mais je vais convaincre les Américains que ma décision est juste et ces armes-là, je les aurai.
Attendez, j'ai limite les larmes aux yeux. Alors, alors vous savez quelle est la première réplique de ce film? Un garde du corps qui, en parlant des déplacements du président, dit dans son talkie-walkie « La liberté avance ». Dans ce film scénarisé par le grand démocrate et génial Aaron Sorkin, il est même question de Frank Capra, ce réalisateur qui croyait que l'Amérique était la terre promise de la démocratie.
Aaron Sorkin, le scénariste si démocrate, auteur entre autres de la grande série La Maison Blanche.
Et oui, et ce film de Rob Reiner, vous verrez, apparaît vraiment comme un galop d'essai de cette série où Martin Sheen est le président, alors qu'ici, dans le film, il n'est encore que son conseiller. Alors plus récemment, Aaron Sorkin a réalisé Les Sept de Chicago, sur un des procès les plus rocambolesques de l'histoire des États-Unis, où des défenseurs de la contre-culture, des Black Panthers, des militants anti-guerre du Vietnam, furent accusés à tort par l'administration Nixon d'avoir organisé les émeutes sanglantes qui se déroulèrent lors de la Convention nationale démocrate d'août 68. Bon, il y a tout ce qu'on aime de l'Amérique et du cinéma américain dans ce film de procès politique magistral.
En venant à Chicago, aviez-vous l'espoir de vous confronter aux forces de police ?
Si ça demande réflexion, c'est mauvais signe.
Donne-moi un petit instant, Frangin. C'est la première fois que je suis poursuivi pour mes pensées.
Le monde entier nous regarde !
Je rêve d'un scénario. Alors, Frank Capra revient, il nous venge et il nous rend l'Amérique, putain.
Merci beaucoup Guillemette Todisino pour ce très bel hommage à Rob Reiner. Il faut revoir tous les films de Rob Reiner, en tout cas les films des années 80-90, absolument merveilleux. Stand by Me, Quand Harry rencontre Sally, Princess Bride, il y a aussi Des Hommes d'honneur, formidable. Et là vous avez donc recommandé Le Président et Miss Wade avec Michael Douglas et Annette Bening dans mon souvenir. Et puis également un film que je n'ai pas vu, Les Sept de Chicago d'Aaron Sorkin.
Avec un casting de malade.
Merci beaucoup pour votre ordonnance de cinéthérapie qu'on peut retrouver, Guillemette Todisino, sur l'appli Radio France. Dans un instant, on continue à s'intéresser à ces tablés qui nous rendent heureux. On se retrouve juste après avoir écouté Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life. C'est pour vous, Guillemette. Une
Merci.
Chanson sortie en 1973.
Merci, darling.
D'écouter Stevie Wonder, You're the Sunshine of My Life.
Ali Rebéi.
Bon, est-ce que tu viens dîner avec Larry et moi ?
Grand bien vous fasse.
Repas intime. 40 danseurs,
80 musiciens et 300 places.
Bonne bouffe, hein.
Sur France Inter.
Et ce matin, dans Grand Main vous fasse, on se demande pourquoi manger ensemble nous rend heureux, mais pas toujours.
Oh là là, le réveillon qui arrive à vue d'œil, moi je suis pas prête. Hein. Mais si, t'es prête, t'as fait tes cadeaux, tu viens de me dire ton menu.
Non mais psychologiquement, je suis pas prête. D'entendre des conneries toute la soirée, c'est insupportable. En plus, cette année, on a été farcis. Trump, Mexique, le Brexit, Nicolas Hulot, les migrants, les gilets jaunes, rien que d'y penser, c'est pas possible. Oui, ils vont s'écharper pendant que je verrai ma dinde refroidir, je pourrai rien dire, je deviendrai dingue. Et puis cette année, j'ai même pas le courage de mordre les joues pour pas répondre parce qu'elles sont pas cicatrisées des conneries de l'année dernière.
Bah, ça fait partie des faits, Catherine. Nous, avec Michel, on s'entraîne. Il me dit des phrases que je pourrais entendre au réveillon et je m'entraîne à rester calme et positive. C'est comme de l'auto-hypnose. T'es là, mais t'es pas là, mais au moins tu manges tranquille. Et ça marche, ça? Tout glisse, économie, religion, politique, rien ne m'atteint. Je souris, je réponds gentiment, ben oui, je comprends ton point de vue et au moins je bouffe.
Extrait de Catherine et Liliane, alias Alex Lutz et Bruno Sanchez. Pascal Lardelier, je rappelle que vous êtes professeur à l'université Bourgogne-Europe. On est bien d'accord, hein, pendant les repas de fête notamment, on évite certains sujets.
Oui, on évite certains sujets, et puis la littérature et le cinéma adorent quand bah, ça dégénère et ça dérape, bien sûr. Hein. Oui, c'est vrai, je le disais tout à l'heure, on essaye de produire du consensus, du lien, et de célébrer ce lien avec un peu d'hypocrisie, parfois, ou de retenue, on vient de l'entendre. Mais je rebondis sur ce que j'ai entendu tout à l'heure. Oui, la table de fête, c'est un formidable exercice de démocratie, et familiale en l'occurrence. Alors, voilà, je me répète, mais on essaye effectivement d'aller dans le sens un peu consensuel, et puis parfois, eh bien... Alors, pourquoi l'oncle? Vous avez raison, Ali, pourquoi c'est toujours sur l'oncle que ça tombe? Mais c'est vrai qu'on prend toujours cet exemple de l'oncle un peu malaisant, bah, qui va, à un moment donné, avec un coup dans le nez ou pas, eh bah, commencer à dire des choses qui vont d'abord mettre mal à l'aise et ensuite faire scandale. Et là, bah, il y a un exercice soit d'autorégulation du groupe, on fait semblant de ne pas avoir entendu, ou on va le neutraliser, l'isoler, et puis parfois, bah, ça part totalement vrille, quoi. Voilà.
Camille Chamignon, je rappelle que vous publiez le très beau livre Petite, Moyenne et Grande Tablée chez Hachette Cuisine. Dans vos tablées de 30 personnes à Noël, vous évitez certains sujets?
Non, ça va. Non, en vrai, on est là pour rigoler, pour bien manger. On s'entend tous très bien. On a de la chance d'être une famille qui s'entend très bien, d'être un noyau uni.
Et on a le droit de venir.
Ça se passe bien. Ah oui, on accueille tout le monde.
À guillemets,
si
on a envie d'y aller.
Oui, mais ça n'empêche pas. On peut être une famille qui s'entend très bien et savoir très bien que son propre fils ou son beau-frère a déjà préparé la petite vanne ou le sujet qui va un peu faire monter la température à table. Mais après, c'est pas non plus... Enfin, je pense pas qu'on finit par s'envoyer la dinde à la gueule. Mais
ça finit pas toujours comme dans le film Festen.
Non, hein. Voilà, on n'est pas non plus obligé que ça finisse en tragédie. Mais les petites piques politiques, oui, etc., bien sûr que ça a lieu tous les ans.
Exactement.
Et j'ai presque envie de dire, heureusement, autrement ce serait quand même un peu mou, quoi.
Grégory Cohen, vous publiez chez Le Duc, Ma cuisine italienne, Bella Gigi.
Oui. Ben, c'est un super bouquin. Avec,
non, mais je
très bonne réponse.
Si vous pouviez rebondir dans notre conversation à ce qui vient d'être dit, ce serait pas mal.
Moi, je suis ici d'une famille qui est très, très bigarrée en origine. Et donc, on a des
haute
origines.
Haute en couleur.
Et haute en couleur. Donc, on est profondément méditerranéen, ça c'est sûr, mais on est sur un large bassin méditerranéen qui va jusqu'en Kabylie et qui prend ses sources en Sicile, donc c'est assez large. Donc autant dire que les repas de famille, généralement, c'est en termes de volume, on est assez élevé. Ouais. En termes
volume
de
sonore,
oui, en termes de... Et alors ça t'habitue dès que t'es gamin à prendre ta place au sein de la famille, parce que à un moment tu vois en fait les personnes qui parlent beaucoup et fort, et d'un seul coup bah tu dis comment est-ce que je peux exister au milieu de ces personnalités qui sont absolument magiques et incroyables, et c'est là où tu commences à trouver une façon toi aussi de communiquer.
Et c'est vrai, Pascal Lardelier, pour un enfant la table c'est un formidable espace d'apprentissage, il est le témoin privilégié des relations des adultes qui l'entourent en assistant, comme le disait Grégory Cohen, en assistant aux discussions des grandes personnes, il découvre lors de ces grands repas les enjeux familiaux, les ententes, les dissensions, les collusions, vous l'expliquez très bien dans votre livre.
Alors, c'est un espace de socialisation, déjà à la table, bien évidemment, parce qu'on doit se tenir et se conformer à des règles. Et puis, vous le dites, Ali, c'est un espace d'acculturation à une histoire et à un imaginaire familial aussi. Hein, et c'est vrai que l'enfant qui est là, spectateur et peut-être spectateur de cette dramaturgie, mais assez paisible finalement, eh bien, il comprend qu'il y a des tensions, qu'il y a des inimitiés, qu'il y a des complicités, qu'il y a des secrets aussi. Hein, et c'est vrai qu'on reste tellement longtemps à table pour les fêtes que forcément, y a des choses qui vont fuiter, qui vont sourdre doucement. Et c'est un régal de sociologue ou d'anthropologue, et puis c'est un régal de convive que de regarder avec ce petit pas de côté réflexif comment les choses se jouent et se nouent autour de cette table, véritablement, qui est une arène presque, et un écrin aussi.
Et chez les Saint-Maurice, le volume est aussi fort que chez les Cohen? Parce que je sais qu'on ne dit pas chez les deux Saint-Maurice, on dit chez les Saint-Maurice. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe par chez vous.
Oui, c'est aussi à l'occasion de... par chez vous.
À la royauté, comment ça se passe?
L'occasion.
Par rapport au plèbe, comment est-ce que tu... Comment
par,
est-ce
rapport
que
la
tu
plèbe,
par rapport à la plèbe.
Mais enfin, un peu de respect.
Bah justement.
L'occasion, non, mais c'est l'occasion de se rassembler. Un des souvenirs que j'ai, et surtout je trouve ça très mignon, c'est le moment où il y a toujours un moment où les enfants petits quittent la table, et puis il y a un moment où en fait... ils se mettent à rester à table et à ne pas quitter la table et à parler avec, à vouloir garder cette conversation avec les adultes, etc. Et donc, il me semble que, en tout cas, moi, c'est un souvenir que j'ai, c'est le souvenir de ce premier repas de Noël où je reste plus longtemps à table avec les adultes. C'est aussi le côté, hein, on sent que l'enfance, on sort un peu de l'enfance. Et voilà, c'est l'occasion d'autres rites de passage cette fois. Voilà. Et d'ailleurs, je me souviens aussi, autre chose, comme on est très nombreux, pour plein de familles, ça doit être pareil. On pourrait se dire, c'est vraiment le moment de la tradition, de la famille qui se retrouve. Et il se trouve que chez nous, ça a toujours été l'occasion. C'est là que, pour la première fois, les petits copains, les petites copines étaient présentés, par exemple. Alors que c'était chez la grand-mère, machin. Mais en fait, on se sentait justement peut-être en sécurité, il y avait beaucoup de monde. Et donc, c'était au contraire là que les nouveautés étaient introduites.
Camille Chamignon acquiesce.
Oui, nous c'est ça, c'est la petite pression de Noël. Si on présente quelqu'un à Noël, c'est que c'est vraiment la bonne personne. Des fois, ça peut mettre quelques années même.
Guillemette.
Je rebondis sur la notion des enfants. Question vraiment, mais je trouve fondamentale, et c'est pareil pour les mariages. Est-ce qu'il faut faire une table d'enfants ou pas? Parce que les tables d'enfants... Non, moi je pense que non, parce qu'en fait on se sent toujours relégué. En plus, c'est toujours les tables pliantes qu'on cale dans un coin qui tiennent pas bien, sur lesquelles en plus on est avec le cousin qu'on aime pas. Enfin, ça va pas du tout. Hein. Donc, est-ce qu'il faut mélanger les enfants avec les adultes à table dans le rituel? Je pense que oui.
Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Thibaut et Greg?
Oui, moi je suis plutôt team une seule table avec effectivement la possibilité d'avoir. Les enfants qui quittent la table à un moment donné, mais c'est déjà arrivé aussi que quelqu'un de plus âgé quitte la table pour aller faire un petit somme et revenir aussi, donc après tout, pourquoi pas. Donc non, mais plutôt, si on a la possibilité, l'espace, etc., une grande tablée, c'est joyeux.
Tiens, à ce stade de l'émission, j'ai envie que notre invitée Camille Chamignon partage quelques menus de Noël. Alors, vous nous proposez trois menus pour une tablée de 2 à 4 personnes. Pour une moyenne tablée, une douzaine de personnes, et alors là, après, la grande tablée, 30 personnes ou plus. Tiens, on commence par la petite tablée. Vous nous proposez quoi
Ah oui, alors du coup, moi, je pense que quand on est une petite tablée, on peut peut-être choisir des produits un peu plus festifs, luxueux, qu'on achète une fois dans l'année en se faisant vraiment plaisir. Donc pour l'entrée, ce sera un carpaccio de Saint-Jacques. Donc vous demandez au poissonnier de déjà décoquiller les Saint-Jacques, comme ça, il n'y aura pas de soir de Noël aux urgences.
Aux agrumes, hein, ce carpaccio de Saint-Jacques.
Aux agrumes. Et alors, si vous pouvez, essayez de trouver de la bergamote. Pour faire une mayonnaise à la bergamote, pardon, c'est délicieux, c'est incroyable, c'est parfumé, et c'est la pleine saison des agrumes en France.
Et ensuite ?
Alors, en plat, je ferai des bonnes pâtes à la truffe, donc avec la mélanosporum, c'est la meilleure, la truffe noire. Et j'accompagne ça, je fais une sauce pour lier, c'est une sauce poulette.
C'est quoi ?
Alors, c'est un jus de volaille réduit, donc on peut prendre un poulet rôti, on fait un bon bouillon de volaille, on le réduit, et ensuite on le lie avec de la crème crue. On vient râper la truffe un peu au dernier moment pour pas trop qu'elle cuise, et on vient mettre les pâtes dans toute cette sauce nappante.
Grégory Cohen.
Moi, je dis bravo, et évidemment, si on n'a pas les moyens d'acheter de la truffe, on peut prendre de la brisure de truffe.
Oui, voilà, ou de la crème, de la très bonne crème de truffe, voilà. Même la tartufa, ça marche très bien.
Et le dessert ?
Et le dessert, alors quand on n'est pas beaucoup, j'aime bien faire les petits desserts minutes où on a un petit chaud-froid en bouche. Donc pour ça, le coulant à la cuillère et un peu, avec un peu de fleur de sel dessus, c'est parfait. Il faut juste rester devant le four les deux dernières minutes de cuisson, sinon ça peut vite faire un gâteau au lieu d'un coulant.
Un coulant au chocolat. Hein.
Oui, au chocolat.
On est bien d'accord.
Oui, pardon, un coulant au chocolat. Et avec ça, pour un peu de fraîcheur, une salade d'agrumes, d'orange avec une bonne gousse de vanille.
Autour de la table, on valide ce menu pour 2 à 4 personnes.
Ah oui, oui.
Grave.
Est-ce qu'on peut une petite astuce pour le coulant, pour être sûr qu'il marche vraiment bien. On peut aussi gruger un peu, tricher un peu. On met à l'intérieur une quenelle de glace. Et du coup, on sait que ça va être coulant à peu près quoi qu'il arrive. Et on peut dire, je veux faire un coulant chocolat vanille, chocolat chocolat. Enfin, on choisit après ce qu'on veut.
Allez, le menu pour une tablée d'une douzaine de personnes.
Alors moi, ce sera mon menu du 24 au soir, qui sera chez mes parents. Donc je vais faire un cappuccino de champignons. Donc c'est des champignons de Paris, avec, c'est un velouté de champignons, pommes de terre, échalotes. Moi, j'ajoute toujours des champignons séchés qui apportent beaucoup de profondeur, comme des mousserons. Et on vient mettre un trait de café et on fait une mousse de lait sur le dessus. Donc on sert vraiment ça dans une tasse à café pour vraiment avoir le geste « je bois ma petite boisson chaude » et en général, les invités, ils adorent. Ensuite, je ferai des bouchées à la reine aux légumes anciens. Donc ça, c'est pour nos amis végétariens. Avec de la quenelle nature qui est végétarienne. Donc on vient mettre du topinambour, du pané, des carottes, des bons petits champignons. On met par-dessus des petites noisettes du Piémont, si on en a. Et on sert ça avec une salade à l'huile de noix et un bon vinaigre de cidre.
Et on choisit une bonne pâte feuilletée. Il y en a beaucoup dans le commerce. On fait attention quand même aux ingrédients de cette pâte feuilletée qu'on trouve au supermarché, Grégory Cohen. On évite les pâtes feuilletées à base d'huile de palme.
On fait attention en fait à tous les ingrédients en règle générale. Il faut vraiment regarder ce qu'on fait. Mais une pâte feuilletée, c'est avec du beurre. Hein. Donc il faut qu'on retrouve du beurre dedans naturellement.
Le dessert, je valide.
Et le dessert, un nougat glacé, un classique de Noël qu'on peut préparer à l'avance, donc ça, c'est super. Et si on sait faire de la nougatine, allez-y, faites-en plein, parce qu'avec le café...
Rappelez ce qu'est la nougatine.
C'est du sucre cuit avec des éclats d'amandes, et qu'on vient après couler sur une plaque, on attend que ça refroidit, on casse un petit morceau et on met ça dans l'appareil à nougat glacé.
Et je peux donner un test que j'ai fait là il y a pas longtemps qui est génialissime. On fait un caramel. Une fois qu'on a fait son caramel blond, donc pas trop cuit, on met une cuillère à soupe de bicarbonate de soude dedans. Et alors c'est génial. Il y a une réaction chimique qui va avoir lieu. Il va gonfler. Et ça va faire des crumbs de caramel avec des petites alvéoles d'air de sang. Et on peut l'émietter. Et ça fait un super complément de dessert.
Je pense que dans un nougat glacé, ça c'est parfait.
Génial.
Ouais. Pascal Lardelier, vous validez là jusque-là le menu, ça vous va?
Oh bah écoutez, si je suis invité, j'accours, mais ça devrait être pas mal là où je serai, donc voilà, tout va bien. Alors par contre, si vous me permettez, Ali, il y a un invité surprise qu'on n'a pas encore abordé.
Oui, dites-moi.
Depuis le début de l'émission, c'est le smartphone.
Ah bah oui.
Ils ont quand même fait une irruption assez incroyable depuis une... Oui, depuis 20 ans, voire plus. Mais à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de la food porn, c'est-à-dire de la mise en scène de ce qu'on est en train de manger, c'est vrai qu'ils mettent la table en scène, mais ils la mettent aussi en tension quand même. Hein, puisqu'on parlait des enfants, est-ce qu'ils doivent être à table ou pas? Mais quand ils sont à table, il arrive un moment, ils s'ennuient. Et alors, pour éviter qu'ils s'ennuient, on va leur donner une tablette ou un téléphone. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que les enfants qui, à table, ont les doigts sur le clavier. Et ça, c'est vrai que c'est un invité surprise, je reviens, qui est à gérer. Puisque est-ce qu'on décrète qu'on fait le repas de fête sans aucun téléphone? Est-ce qu'on peut faire des photos? Enfin voilà, donc c'est en tout cas une nouvelle donne, une nouvelle économie logistique et symbolique qui se joue avec l'irruption des nouvelles technologies et des réseaux sociaux à table.
Allez, on part sur... Non, je parle comme dans Top Chef, là.
On
continue avec un menu de Noël pour une grande tablée, au moins 20 personnes. Camille Chamignon, qu'est-ce que vous nous proposez?
Alors en entrée, là, je vais faire cette année des faux escargots, entre guillemets, persillés. Donc en fait, on vient prendre un champignon de Paris brun, on enlève le petit pied et on vient fourrer avec un beurre persillé comme on ferait avec des escargots. On met un peu de chapelure pour que ça croustille et ça fait un semblant.
Ça me plaît beaucoup ce que vous dites parce que... Moi, les escargots, j'aime pas ça. Mais la farce, le beurre
bon,
d'escargot, c'est très bon. Donc là, vous me donnez une idée. Pour Noël, c'est excellent.
Ça.
Donc, des champignons, Des champignons de Paris ?
Oui.
Très bien. Bon, voilà, ça, moi je le prends pour Noël. Thibaut ?
Oui, non, c'est formidable. Après, si on est 20 ou 30, il faut en faire beaucoup parce que.
Oui, je vais en faire 90.
Ça va se faire aider. Voilà. Va se faire aider.
Oui, mais ça va. En vrai, c'est de la poche à douille. C'est, ça va à la chaîne, c'est rapide.
Ensuite, qu'est-ce que vous nous proposez en plat principal ?
Alors ensuite, nous, on privilégie toujours les plats en cocotte parce qu'on n'a pas des fours professionnels. Mais par contre, on a des très grosses cocottes chez nous, donc on peut multiplier les portions. Et cette année, on va faire une carbonade flamande. Donc c'est comme un bœuf bourguignon, mais à la bière et d'origine du Nord. Et on ajoute un peu de pain d'épices fait maison aussi pour apporter les saveurs de Noël. Et on a toujours les marqueurs.
La reine de la cocotte, guillemets.
La reine de la cocotte.
C'est vrai.
La reine des cocottes, pas.
Et mais, de la blanquette.
Mais, et de la blanquette, oui. Mais merci d'avoir parlé de. Chaque année, de toute façon, je dis ça, mais le problème avec tous ces repas, c'est les fours, c'est les plaques, c'est les plats. On n'a jamais assez de place, ça rentre jamais nulle part. C'est-à-dire, on décide de faire un plat, on est tout content, et puis tout d'un coup, on se dit, mais merde, les deux cocottes, elles rentrent pas. Parce qu'en fait, sur la plaque, elles se heurtent. Le four, il est même pas assez grand pour rentrer la dinde. Enfin, non, mais franchement, il faudrait faire un guide pratique.
Et on sent que vous allez manifester Place de la République, là. Hein. Ça, c'est
non,
le manifeste de Guillemette.
Mais vous vous rendez compte, quand vous préparez un menu à l'avance, tout le monde est d'accord, et tout d'un coup, vous apercevez que, de toute façon, votre matos ne correspond pas.
Grégory Cohen.
Mais c'est en fait, ce que Camille vient de donner comme menu, c'est tout ça, la gastronomie française. En fait, on était sur du mijotage lent. Du coup, vu que c'est mijoté lentement, on a moins peur que ça crame.
Que ça loupe,
donc on n'est pas embêté, on peut rester avec tout le monde. Et puis on a ces espèces de grosses marmites ou ces grosses cocottes où après tu vas réhydrater un petit peu pour être sûr que tu vas pouvoir récupérer les sucs de cuisson. Et presque plus ça cuit, meilleur c'est. Donc c'est assez génial.
C'est vraiment une très bonne idée.
Un autre plat en cocotte. Pour changer de la carbonade flamande, c'est le bourguignon de champignons et de miso.
Oui, alors ça c'est un plat vraiment surprenant qui n'a pas de viande, mais on a tous les marqueurs du bœuf bourguignon. On choisit plusieurs variétés de champignons pour apporter des textures différentes, donc les shiitake, les pleurotes, champignons de Paris, si on peut mettre un peu de mousseron. On met du miso pour apporter un peu plus de profondeur et de goût umami. Et ça, c'est pour tout le monde, même les viandards.
Le goût umami, rappelez ce que c'est le goût umami, Grégory.
C'est une saveur qui est différente, qui va donner de l'acidité et du sucré en même temps, qui va tapisser complètement la bouche et qui fait que c'est un goût qui est un peu nouveau et différent.
Et on termine comment, Camille Chamignon ?
Là, nous, c'est bûche XXL depuis tout le temps, en fait, depuis des décennies.
Il y a quoi dedans ?
Alors là, cette année, je vais faire le biscuit roulé. C'est un biscuit roulé très facile, comme un biscuit inversé. Et c'est une crème de marron avec du mascarpone et de la crème de marron. On a juste besoin d'un petit batteur électrique, des petits segments de clémentine et on roule et voilà.
Clémentine, Grégory, est-ce que vous avez une astuce pour ne pas casser ce gâteau roulé ? Si, c'est quoi l'astuce ?
C'est le torchon humide.
Non, mais tout le monde ne le sait pas.
Alors, il y a plusieurs choses. Il ne faut pas la rouler quand elle sort du four. La grosse erreur, la première erreur qu'on fait, c'est quand elle est très chaude, on la sort du four et on commence à la rouler. Deuxième truc, il ne faut pas essayer de la rouler très serrée sur le premier roulage. Si on la roule trop serrée sur le premier, sur la toute première, elle a tendance à se casser. Enfin, on la roule en la poussant du bout des doigts, presque de la paume. On n'essaie pas de la forcer avec les doigts en forçant le geste.
Je vois la tête de notre réalisatrice Claire Destacan qui comprend pourquoi elle rate systématiquement ses bûches.
Et si on veut être sûr de pas du tout se planter, on fait un petit sirop. Et on imbibe au sirop, du coup elle va être beaucoup plus molle, beaucoup plus flex et plus facile à rouler.
Pascal Lardelier, ces menus nous mettent en joie. Une belle tablée heureuse, c'est évidemment les mets autour de la table, mais c'est aussi une tablée qui rit, qui s'éclate, qui jubile, qui se nourrit de paroles et de rires, c'est essentiel.
C'est fondamental. C'est vrai que l'air du temps est morose et anxiogène. Une chronique nous l'a rappelé tout à l'heure. Et c'est vrai que finalement, il y a, je trouve, autour de ces tables de fête, à la fois la dialectique des corps individuels qui se réjouissent, qui sont en joie. Et puis, il y a une espèce de corps collectif, familial, qui va se célébrer dans la joie. Oui, puis il y a des amis aussi, on l'a entendu, des pièces rapportées, comme ça a été dit. Et je crois qu'il faut effectivement faire de ces tables des moments de convivialité. convivialité, de rire, d'humour partagé. L'humour est un formidable liant interpersonnel et intergénérationnel, et je crois qu'il ne faut pas oublier. On dit souvent que le rite, et je le disais tout à l'heure, il a un côté solennel. Mais oui, oui, c'est pas le festin de Babette à chaque fois. Il faut qu'il y ait du rire, de la liesse. Et c'est là aussi que le corps collectif se régénère, qu'il retrouve un souffle et un enthousiasme, pourrais-je dire. C'est-à-dire une dimension véritablement étymologiquement sacrée. Donc le rire, l'humour sont fondamentaux. Il y a un côté rabelaisien, voilà. Les fêtes de fin d'année, il y a un côté religieux, mais il doit y avoir, me semble-t-il, eh bien ce côté rabelaisien qui réjouit. Les corps, vous le disiez si bien tout à l'heure en ouverture, les corps et les cœurs.
Allez, dans un instant, c'est la punchline philo de Thibaut de Saint-Maurice. Cette semaine, la propriété, c'est le vol. En attendant, on écoute Marguerite, les avions.
On savait que c'était fini, on est quand même parti, loin des gens, loin de Paris. Est-ce qu'on sera plus joli, se sauver dans les rires, dans la nuit, dans un lit. Ce monde est pas poli, t'étais le seul gars gentil. Poussière sous le tapis, café à refroidi, amour à refroidi. Je crois qu'on s'est tout dit, on s'est pas vu s'affaiblir. C'est facile de se mentir, on se croit toujours solide jusqu'au jour de la collision. Est-ce qu'il y a des avions qui restent dans le ciel et ne tombent jamais? Est-ce qu'il y a des avions qui traversent la grève et les turbulences? Faudra refaire tous les murs, changer les photos, les peintures, faire une croix sur le futur. À deux, chez moi c'est pas bien rangé, dans le poulet se les clés. Plus de traces sur l'oreiller, c'est mieux. Et puis faut que je te rende tes fringues, ce sera la dernière étreinte. Je ferme la porte et je me blinde. Adieu, la musique était jolie, mais le texte mal écrit, des fausses notes dans la partition. Est-ce qu'il y a des avions qui restent dans le ciel et ne tombent jamais? Est-ce qu'il y a des avions qui traversent la grève? Est-ce qu'il y a des avions qui restent dans le ciel et ne tombent jamais? Est-ce qu'il y a des avions qui traversent la grève et les turbulences? Dans le ciel et ne tombe jamais. Est-ce qu'il y a des avions qui traversent la grêle et les turbulences?
C'était Marguerite qui interprétait les avions.
France Inter.
Nietzsche, allez.
Rends bien vous face.
L'homme qui a dit en mort est pareil au chien qui mord une pierre.
Qu'est-ce qu'il dit?
Il dit que l'homme n'est pas toujours un loup pour l'homme.
Ah bon?
Si.
Ben si.
Alors, ce matin, dans votre punchline de la philo, vous nous proposez, Thibaut, une punchline un peu déroutante. La propriété, c'est le vol.
Eh oui, alors Alice, ça commence comme une contradiction qui fait toucher tousser le bourgeois et pas seulement. Alors comment ce qui est à moi pourrait-il être un vol ? Par définition, la propriété, c'est le contraire du vol, et le propriétaire, c'est plutôt celui qui garde les quittances que celui qui porte une cagoule et qui enchaîne les braquages. Et pourtant, Pierre-Joseph Proudhon, donc, fait exprès de provoquer avec une telle formule, dès l'ouverture de son livre « Qu'est-ce que la propriété ?», publié en 1840, il annonce qu'il met la dernière pensée de son livre au commencement, voilà, il commence par le dessert, ce qui donne cet effet donc de provocation qui réveille donc bien mieux que le café. Alors, pour éviter le contresens, il prévient aussitôt après, il dit, je cite, « Lecteur, rassurez-vous, je ne suis point un agent de discorde, nous voilà rassurés, cette phrase n'est pas un appel au pillage, mais une revendication de justice ». Alors revenons au contexte. Cette formule, la propriété, c'est le vol, elle est donc écrite en 1840 sous la monarchie de Juillet. À cette époque, la propriété est un pilier de cette société post-révolution française. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789 la proclamait d'ailleurs, cette propriété, inviolable et sacré. Et puis dans un régime censitaire, alors un régime censitaire, c'est un régime où on ne peut voter que quand on a un certain niveau de richesse. Et ben la propriété, c'est pas seulement un bien, c'est aussi un sésame politique. Toucher à la propriété, c'est donc toucher au pouvoir, au moment même où la question sociale, comme on va l'appeler, devient insupportable à mesure que la révolution industrielle multiplie autant les ouvriers que la pauvreté.
Alors Thibault, quelle est cette propriété que dénonce Proudhon et de quel vol se rend-elle coupable ?
Eh bien, pour le comprendre, comme souvent, il faut distinguer. Distinguer la simple possession de la grande propriété. La possession, c'est l'usage, l'occupation, le fait de faire valoir. La propriété, au sens strict, c'est l'absolu juridique, le pouvoir d'accumuler et de commander à distance. La possession, pour Proudhon, c'est la propriété légitime. Je possède mes vêtements, ma voiture, mon vélo, mon appartement, peut-être, ou le champ que je peux cultiver. Parce qu'ils sont acquis avec les fruits de mon travail et que les posséder ne privent personne. La propriété qui est dans le collimateur de Proudhon, c'est cette propriété qui est le résultat de l'appropriation, de la conquête ou de la concentration de la valeur. C'est la propriété donc du capital qui s'approprie la valeur du travail collectif et des terres communes. C'est une propriété privilège qui protège un seul et qui exclut tous les autres. Alors Proudhon n'est pas un doux rêveur. Il ne plaide pas pour une abolition totale de toute propriété privée au profit d'un collectivisme généralisé, mais il vise seulement cette propriété qui permet de profiter sans rien faire. Celle qui profite du travail des autres, du besoin des autres, de la misère des autres. Le vol qu'il dénonce, c'est bien sûr pas un cambriolage, mais c'est une appropriation qui est tout aussi injuste dans ses effets. Alors c'est de façon certes un peu insolente que le fait Proudhon avec cette formule, qu'il pose donc cette question de la justice et de la répartition des richesses. Qu'est-ce qui rend une appropriation légitime ? Le travail, l'usage, le besoin ou la richesse et le désir sans fin du capitalisme ? Là où certains imaginent aujourd'hui des taxes sur les revenus des milliardaires, Proudhon, lui, plaidait plutôt pour des associations, du crédit mutuel avec des prêts à taux zéro, des coopératives et des fédérations, bref, une propriété sociale liée à l'usage et à l'égalité et non pas aux privilèges et à la richesse. Une propriété liberté même, comme il l'appelle, qui permettrait de vivre et non pas une propriété privilège qui permet de vivre des autres. Au fond, il pose déjà toutes les questions de la démocratie économique sur lesquelles nous continuons de débattre aujourd'hui. À ne surtout pas engager comme conversation lors de vos repas de Noël.
Oui, c'est vrai. Les punchlines de la philo de Thibault de Saint-Maurice sont à podcaster sur l'appli Radio France. Et c'est ainsi que s'achève Grand Bien Vous Fasse. Merci aux amis du vendredi, Thibault et Guillemette. Merci Grégory Cohen, ma cuisine italienne, Bella Gigi. C'est publié chez Le Duc. Merci Camille Chamignon. Gros coup de cœur pour votre beau livre de cuisine, petite, moyenne et grande table. Publié chez Hachette Cuisine avec de magnifiques illustrations d'Agathe Chamignon et des photographies d'Anne-Claire Hérault. Merci d'être passé. Merci Pascal Lardelier. Vous publiez en janvier un livre sur le complotisme et merci aux équipes d'ici Bourgogne à Dijon, Guillemette.
Je voulais juste dire à Pascal qu'il avait la voix de Christophe André. vous êtes le sosie vocal de Christophe André, c'est incroyable, c'est très agréable à l'oreille.
Eh bien merci Guillemette, merci beaucoup.
Merci Nathalie Romero pour la programmation de cette émission avec l'aide de Noé Brabant. Merci à Mathias Volant et Claire Destacan pour la réalisation. Merci à Valentine Chedebois pour la programmation musicale.